CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « C'est le moment d'entrer dans ton appel ».
Yes.
Êtes-vous dans votre appel, messieurs, madame ?
Yes.
Alléluia.
Gwen n'est pas sûre, apparemment.
J'ai dit oui.
T'as dit oui intérieurement.
Ouais.
D'accord.
J'essaie juste de ne pas perturber le plateau.
Ah, ça va être difficile. Hein.
C'est ça.
Tu viens de le faire. Là.
Ah, c'est
ton silence est perturbateur, Gwen. En
quoi fait. Que je fasse, Yveline.
De... de toute façon, il est persécuté, Gwen. Le pauvre. On t'aime, Gwen. Ça va aller, tout va bien. Tu as ta place parmi nous. Tu es dans ton appel sur ce plateau. Dans mon
Gloire à Dieu.
C'est un message pour certains d'entre vous qui sera peut-être prophétique, peut-être que Dieu va vous parler dans cette émission. Vous savez, votre appel, on a déjà parlé dans différentes émissions, comment savoir quel est mon appel, comment me préparer à entrer dans mon appel. Aujourd'hui, on entre dans l'appel, parce que c'est bien beau d'être prêt, de se préparer. Il faut se préparer, on l'a déjà dit, mais il est temps maintenant d'entrer dans son appel. Et Jérémy, on va y entrer tout de suite avec toi dans la pensée du jour.
Il est temps d'entrer dans votre appel. Un jour, les disciples ont pressé Jésus de manger. Jésus a dit, moi, j'ai une nourriture à manger que peut-être vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et il dit, regardez, vous vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais levez les yeux et regardez, parce que la moisson est déjà prête.
Ouais.
Et c'est certainement pour plusieurs d'entre vous un message de la part de Dieu. Plusieurs, vous avez prié, vous avez cherché la face de Dieu pour savoir est-ce que c'est le temps d'entrer dans votre appel. Et aujourd'hui, le Seigneur veut dire à plusieurs personnes que c'est le moment d'entrer dans votre appel. Et arrêtez de dire qu'il y a encore 4 mois, qu'il y a encore 3 mois, qu'il y a encore 1 an, que vous devez faire ceci et faire cela avant d'y entrer. Et souvent, les gens me posent des questions. Est-ce que je peux prier pour des malades maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prier pour des malades? Et il n'y a rien à faire si ce n'est de le faire.
Amen.
Et c'est vraiment le moment de prier pour les malades. C'est le moment de partager Jésus-Christ. C'est le moment de le faire. Et quand on commence à marcher, quand on commence à imposer les mains sur les malades, quand on commence à parler de lui, bah c'est à ce moment-là qu'on voit le Seigneur faire des choses qu'on n'avait jamais vu faire.
Ouais.
Et autant on va rester assis, aussi longtemps on restera assis, aussi longtemps on ne verra rien du tout.
Mmh.
Alors la moisson, elle est prête, les champs, ils sont déjà blancs, ils sont mûrs, on peut aller déjà cueillir les fruits et les récolter pour la gloire de Dieu. La négligence, c'est vraiment un des pires traits de caractère d'une personne qui veut servir Dieu. La négligence, c'est ce fait de toujours vouloir repousser ou en se disant « bon, c'est pas très important, mais si vous êtes appelé, c'est tellement important, essentiel, primordial, obligatoire d'accomplir ce que Dieu vous a demandé de faire. Sinon, vous allez vous retrouver devant le Seigneur à la fin de votre vie ou quand vous serez mort devant lui et vous allez avoir un choc et tellement de regrets de ne pas avoir accompli ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a parmi les Israélites, il y avait 12 tribus et il y en a 7 tribus qui n'avaient pas encore pris leur territoire. Ils ne s'étaient pas encore emparés de leur territoire. Et alors Josué va leur dire, pendant combien de temps encore vous allez négliger de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? C'est vrai, il y a les ancêtres et c'est bien, mais maintenant, moi, mon appel, c'est bien, il y a les parents, il y a le pasteur, il y a les frères et les sœurs, mais vous devant Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire et est-ce que vous êtes en train de le faire? Premièrement, j'aimerais vous dire, arrêtez de négliger votre appel.
Mm-hmm.
Mais commencez à y entrer, c'est le moment d'y entrer. Et deuxièmement aussi, soyez motivés. C'est assez intéressant parce que dans cette histoire des 12 tribus et des 7 qui n'avaient pas encore pris leur héritage, leur possession, leur patrimoine, Caleb, il va dire à Josué, il dit, moi, quand Dieu m'a appelé auprès de Moïse, j'avais 40 ans. Il dit, j'avais 40 ans, le serviteur de Dieu Moïse m'a appelé pour explorer le pays. Et il dit, j'ai aujourd'hui 85 ans. Et je suis encore aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission, soit pour aller, soit pour combattre ou mener une expédition militaire. Il dit, maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. Alors si Caleb, qui avait 85 ans, il était motivé, il voulait à 85 ans, on a pu se dire, c'est le moment de la retraite, c'est le moment où il pouvait simplement profiter. À 85 ans, il était extrêmement motivé, il n'avait pas peur du combat, il n'avait pas peur de la vieillesse, il voulait simplement une chose, c'est pouvoir posséder ce que le Seigneur lui avait demandé de posséder. Et s'il a fait à 85 ans, vous qui avez 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est le moment pour vous de ne plus négliger, mais d'être motivé vraiment pour accomplir la volonté de Dieu dans cette année, en ce moment, en 2019, entrer dans votre appel et pouvoir l'accomplir pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Jérémy. En introduction, je n'ai pas précisé qui était notre invité dans la rubrique « C'est mon histoire ». Je veux juste le dire avant qu'on commence cette discussion. C'est Audrey Mac que j'ai reçue et qui a raconté comment elle est entrée justement dans son appel en tant que missionnaire. Et on connaît les fruits d'un tel ministère. Donc, on découvrira ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Mais on voit dans ce que tu nous partages, Jérémy, la nécessité d'un jour ou l'autre de se décider, de se dire là, il faut y aller. Et on va regarder notre verset du jour, 1 Chronique 22, 16. Cette parole s'adresse à quelqu'un, « Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi ». Vous vous sentez peut-être interpellé par cette parole. On peut lire juste le verset avant, le verset 15, qui dit « Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. » On voit dans ce verset que on a tout en fait. On a déjà, on a les ouvriers, on a les charpentiers, on a l'or, donc ce qui peut représenter aussi les finances, le budget. Dieu nous dit, tu as tout entre tes mains, je t'ai tout donné, tu es prêt là, tu as été formé, tu connais ma parole, tu as été avec un pasteur, avec quelqu'un, tu as suivi un évangéliste, peu importe, un missionnaire en fonction de ton appel, tu es prêt, maintenant lève-toi et agis. Parce qu'en fait, le problème c'est que souvent les gens ont tellement cette peur de ne pas être prêts pour la mission à laquelle Dieu les a appelés, il faut que je me prépare encore. Alors c'est sûr, il faut se préparer, c'est indispensable. Mais la préparation, c'est aussi entrer dans son appel, hein, comme tu le dis, Jérémy, c'est aussi ça, entrer dans son appel, commencer à se préparer, c'est y entrer. Mais il ne faut pas rester juste dans cette phase de préparation. Et Jérémy, dans ta pensée, tu nous parlais de Caleb qui avait 85 ans. Finalement, il n'est jamais trop tard pour rentrer dans son appel.
Oui, c'est ça. Même Abraham, 99 ans. Saül, David, Jésus avaient 30 ans. Donc tous les trois, quand ils ont commencé à entrer dans leur appel, entre guillemets. Donc il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'y entrer.
Et toi-même, tu as une expérience par rapport à ça, une expérience personnelle?
Oui, quand j'avais 70 ans.
Aujourd'hui, tu as 903.
C'est vrai que tu as l'air toujours aussi jeune qu'au début, comme Caleb.
C'est vrai, je me souviens au début, MCI.
Tu es vigoureux.
Je le sais encore, amen. Non, mais c'est vrai qu'on a des âges différents, on a des appels qui sont différents les uns des autres. Maintenant, le temps passe. Au bout d'un moment, on a peut-être des enfants, les enfants vieillissent, grandissent, ils entrent même dans leur appel. On voit les gens à droite et à gauche qui entrent dans leur appel. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils voient les autres avancer et pas eux. Et cette peur dont tu parles, parce qu'il y a différents appels, bon, c'est sûr, il y a les appels au ministère, mais bien sûr, il n'y a pas que ça, ça c'est une minorité. Il y a le service, ça c'est pour tous, mais il y a aussi des appels différents dans le milieu séculier, etc. Et des entrepreneurs qui doivent commencer une entreprise, une association, un ministère, quelque chose. Et je veux dire, la peur ne devrait jamais nous arrêter. Va avec la force que tu as, lève-toi, agis, oui, que l'Éternel soit avec toi. Et si on croit que Dieu nous a parlé, on doit foncer. C'est vrai, ça ne va pas nous éviter des temps difficiles, comme on en a eu avec Anselme et moi au début. Bon, il y avait des moments, c'était un peu galère, entre guillemets. Mais on aimait tellement le Seigneur que ces choses-là, c'était un peu secondaire, quoi. Bon, nous, on était jeunes, on avait 20 ans. Mais on n'était pas trop jeunes non plus.
Et quand tu avais 70 ans, tu allais nous raconter ton
expérience. 70 ans.
Expérience.
Donc, on est entré d'abord dans cet appel avec Enseigne et moi. Ensuite, moi, à ce moment-là, j'avais un appel au ministère. Et ça a commencé par des prédications dans mon église locale. Après, c'est sûr qu'en moi, je savais que j'étais appelé à être itinérant. Donc, pas un appel pastoral, mais plutôt un appel itinérant d'enseignant et un appel de prophète. Et ça a été long pour y entrer, mais pendant des années, en fait, j'ai prêché l'évangile dans des églises. J'enseignais, je prêchais, etc. Mais je n'avais pas encore d'onction du ministère sur moi. Donc, pendant plus de 10 ans, je prêchais sans onction du ministère, mais je prêchais quand même. J'exhortais, j'encourageais. J'étais invité dans quelques églises parfois. Et voilà, Dieu...
Il y avait des fruits quand même.
Il y avait des fruits. Dieu bénissait. Il est derrière sa parole. Et c'est bien plus tard, donc le 9 février 2012, je crois, que là, l'onction du ministère est tombée, 2011, que l'onction du ministère d'enseignant est d'abord tombée sur moi. Et du jour au lendemain, ça a tout changé. Mmh. Donc, je suis entré d'abord dans ce ministère d'enseignant et plus tard de prophète, où j'ai été vraiment mis à part le 9 février, 3-4 ans plus tard, où là j'ai commencé à y entrer et donc j'y entre toujours de plus en plus. Donc il y a un temps pour la préparation, c'est vrai, mais après il y a un jour où on se lève, où des fois au niveau du ministère, c'est sûr que comme moi, j'aurais pu me dire j'ai pas l'onction du ministère, donc je vais rien faire. Mais non, parce que j'avais ce feu, j'avais ce désir, il fallait que je commence à prêcher. Et je crois que si je l'avais pas fait, Dieu n'aurait jamais pu me, j'aurais pas été fidèle. Dans le peu qu'il m'avait donné, peut-être il m'avait pas donné entre guillemets grand chose, mais j'ai commencé à prêcher simplement avec ce que j'avais. À l'époque, je pouvais trouver ça super. Maintenant, si je réécoute un message, je trouverais ça peut-être un peu moyen. Mais en tout cas, c'est sa parole et elle est bénie.
Amen.
Non, mais on l'avait reçu ici à Saint-Monistère, le pasteur Werner Lehmann. Je dis toujours Lehmann, mais c'est Lehmann son nom.
C'est suisse.
Et il avait un témoignage tellement puissant, je me rappelle, entre les émissions, on parlait. Et lui, il est rentré dans son appel plus tard. Et il encourageait justement les gens qui n'est jamais trop tard. Le but, c'est de faire confiance à Dieu. Et des fois, on a peur de l'échec parce qu'on a peut-être réussi déjà notre carrière professionnelle. Et là, dans servir Dieu, c'est vraiment... on se laisse aller parce que c'est Dieu qui conduit, puis c'est Dieu qui nous amène, puis c'est pas comme quand on travaille en comptant sur nos propres forces. Et vraiment, j'ai encouragé les gens qui commencent le ministère plus tard, qui se sentent appelés, mais qui se disent, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 45 ans, peu importe. Des fois, le Seigneur peut vous avoir appelé plus tard que les autres, mais il y a une accélération aussi qui est sur votre vie, qui est sur le ministère qu'il vous donne. Il y a une onction, comme Jérémie parlait, une onction qui tombe sur toi. Il y a des révélations, tu comprends rapidement des choses que quelqu'un d'autre aurait pu prendre plus de temps à comprendre. Donc, on ne dit pas que, moi, je ne peux pas rentrer comme pasteur d'église à mon âge et tout ça, parce que j'aurais dû commencer il y a 20 ans. Oui, peut-être. Mais peut-être il y a 20 ans, tu n'étais pas prêt. Et Dieu, il savait que ton caractère avait besoin d'être travaillé. Alors dis-toi que si Dieu m'interpelle aujourd'hui, c'est que je suis prêt. Comme tu as dit avec le verset qui précédait celui qui est affiché. Tu as déjà tous les outils. Fais confiance à Dieu. Si tu as peur de l'échec, c'est que tu es encore inconsciemment en train d'essayer d'avoir confiance en toi-même, en tes propres capacités. Mais laisse faire de côté ce que toi, tu as et laisse Dieu te conduire, en fait.
Moi, j'ai aimé le verset que Jérémie lisait. Lorsque Jésus va leur dire « Levez les yeux », c'est important lorsqu'on est appelé. Quand on est appelé, on peut rester dans nos habitudes, parce qu'ils se disaient « la moisson, c'est comme ça, ça vient à telle époque, c'est dans 4 mois, etc. » Mais Jésus va leur dire « Levez les yeux ». Et c'est important quand on a un appel, d'un moment, lever les yeux, parce qu'on peut rester vraiment longtemps, à tourner en rond et à rester dans les mêmes procédés, les mêmes schémas. Et finalement, on va jamais entrer dans notre appel. Et Dieu va pas venir nous saisir un bon matin, nous saisir, nous secouer, nous dire « Ah, c'est maintenant, on va entendre le tonnerre gronder ». Non, en fait, on le sait très bien. C'est pour ça qu'il leur dit à eux « Levez les yeux ». C'est votre responsabilité de lever les yeux. Vous pouvez les garder baissés, vous pouvez rester dans vos schémas, ou bien vous pouvez lever les yeux et regarder. Et j'ai aimé, un jour, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, quelqu'un qui était dans Préinspiré, qui a dit « Vous êtes la réponse à une question qui est posée sur cette terre ». Et c'est important que la personne qui est appelée, elle puisse répondre à cette question. Parce que tant qu'elle ne le fait pas, il y a des gens qui vont souffrir parce que peut-être vous avez dans votre bouche peut-être une parole qui est là pour les guérir, qui est là pour les restaurer. Vous êtes peut-être dans ce que vous avez reçu, dans les dons que vous avez reçus. Vous êtes peut-être une personne qui va multiplier les dons dans l'église, qui va apporter une solution dans des églises, dans tellement et tellement de questions qui sont posées sur la terre. Donc c'est important de le faire. Et en fait, refuser ça, c'est vraiment égoïste. C'est orgueilleux en plus. Donc, je donne une parole dure, mais qui peut l'entendre?
On a tous entendu.
Jérémy parlait de la volonté générale de Dieu au tout début en disant quand est-ce que je peux prier pour les malades? Quand est-ce que je peux commencer à évangéliser? Quand est-ce que je peux commencer à témoigner? Quand est-ce que je peux commencer à... Ça, Dieu, il veut que tous ses disciples fassent ça. C'est simple. Tu te lèves et tu y vas parce qu'il veut qu'on fasse ça. La volonté spécifique de Dieu par rapport à chacune de nos vies, Jérémy l'a très bien dit, tu ne commences pas à la lettre Z. Tu commences A. Et puis, tu vas échelonner, tu vas monter comme ça. Il a commencé à prêcher, pareil pour moi. J'ai commencé dans mon sous-sol d'église avec 5-6 jeunes adultes à partager la parole. Et là, je commençais à rentrer dans mon appel de prédicateur et c'est la même chose. Tu commences là et ça va de gloire en gloire. Dieu te confie de plus grandes choses. Il te met à des différents endroits. Tu saisis parce que tu es en train d'aller. Dieu peut te montrer, là, t'es rendu là. Les gens, c'est qu'eux sont à la lumière rouge dans leur voiture, entre guillemets, spirituelle. Ils n'ont jamais avancé. Mais comment est-ce que tu veux qu'ils te disent quand tourner ou quand aller là? Parce que tu n'as jamais commencé, tu n'as jamais avancé. Et il faut avancer. Et c'est comme ça que Dieu va pouvoir nous diriger par son Saint-Esprit. Tu es rendu là, maintenant, va là. Connecte-toi à ce groupe-là. Là, je suis rendu, je t'appelle à écrire un livre, je t'appelle à faire ça. Et c'est, il faut saisir, il faut y aller. Mm. Et ça, c'est juste, Dieu t'a parlé, tu crois que t'as reçu quelque chose, aie confiance en lui. Mm-hmm. Et je te garantis que Dieu aime beaucoup plus, entre guillemets, quelqu'un qui va essayer de se lever en ayant entendu une parole peut-être de Dieu que quelqu'un qui va être comme ça. Peut-être c'est Dieu qui m'a parlé.
Ouais.
Non, si Dieu, si quelqu'un veut se lever pour être utilisé par Dieu, Dieu va, waouh! Il va, il y en a tellement peu qu'ils le font que Dieu va faire waouh, lui il veut y aller, je suis derrière toi, vas-y fonce, et Dieu va se révéler à nous.
Amen.
C'est comme ça que ça va se passer. En fait, moi c'est comme ça que ça a été.
Et c'est cool parce que c'est vraiment une aventure quand tu commences à te lancer et que peut-être personne n'est là pour t'encourager, mais tu sais que c'est ce que tu dois faire. Bah tu rentres dans une aventure avec Dieu, c'est cool. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des dangers, il y a vraiment un prix à payer. Maintenant, l'apôtre Paul dit voilà, que tout lutteur il s'impose toute espèce d'abstinence. Donc, c'est sûr, on va se priver de faire tout un tas de choses. Peut-être on va se priver d'argent pour la vision. On va, entre guillemets, perdre, avoir l'impression de perdre de l'argent, perdre du temps. Mais ça vaut vraiment, ça vaut le coup, quoi. C'est extraordinaire. Il y aura un prix à payer, il y aura des difficultés, mais il faut le faire. C'est plus le temps de négliger l'appel, c'est plus le temps de... Il faut penser aux choses éternelles, il faut penser aux choses d'en haut. Il faut arrêter d'être l'homme, voilà, cet homme qui est là pour profiter de la vie. Et il faut y aller, Dieu sera avec nous.
Juste une petite chose, les calculs humains, moi je veux vraiment dire aux personnes qui ont un appel que le calcul humain ne vous conduira jamais vers votre appel.
C'est vrai.
Jamais. Parce que si vous calculez aujourd'hui, aujourd'hui si je dois quitter mon travail parce que je dois entrer dans le ministère... Ou tout ça, les calculs humains vous conduiront jamais, jamais, jamais dans votre appel. Donc c'est vraiment important de suivre Jésus-Christ. Et qu'à un moment, ça ne demande pas de foi, ça peut coûter.
Pour la foi.
Et tu parles de quitter son travail. C'est vrai que pour certaines personnes, rentrer dans son appel, c'est forcément tout quitter son travail et tout ça. C'est pas forcément
pas toujours.
Ça. C'est ça. Mais dans certains cas, ça l'est, mais c'est pas toujours ça. Parce qu'il faut aussi, des fois, sortir de certaines visions des choses. On peut commencer à exercer le ministère tout en ayant un travail à côté. Et les choses se font aussi petit à petit, c'est ça. Faut pas brûler les étapes. Comme tu l'as dit, Frank, c'est vraiment important d'y aller étape par étape avec ce que Dieu nous demande. Et on peut voir grand, mais commencer petit. Et il faut aussi se satisfaire des petits commencements. Et tu as parlé du prix à payer, Jérémy, et c'est important que les gens le sachent, parce que certaines personnes ont commencé, sont rentrées dans leur appel. Mais le prix à payer était tellement lourd que ces personnes-là ont renoncé après. Et peut-être c'est votre cas, vous nous écoutez, vous avez commencé à entrer dans votre appel, et ça a été tellement lourd, vous avez simplement renoncé. Aujourd'hui, Dieu veut vous dire, reviens à ce que tu faisais avant. Parce que là, tu étais dans ta destinée, là, tu étais dans les plans que j'avais formés pour toi, pour ta vie. Et tant que tu ne le feras pas, tu seras en dehors de ma volonté parfaite pour ta vie. Donc, si vous nous écoutez, vous êtes interpellés par cette parole, je vous invite vraiment à aller prier, à simplement vous repentir devant Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon. J'avais commencé, c'était trop dur. Maintenant, fortifie-moi pour que je sois suffisamment fort, pour que malgré les oppositions, malgré le prix à payer, je continue dans cet appel auquel tu m'as appelé. Et on va regarder maintenant le témoignage d'Audrey Mac. Vous allez voir un témoignage de missionnaire. Généralement, les missionnaires, c'est vrai, ça coûte tout. Et vous allez voir comment Audrey Mac, malgré le prix payé, elle a continué, elle a persévéré et elle persévère encore aujourd'hui. Je vous laisse écouter ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec Audrey Mac. Bonjour Audrey.
Bonjour Yveline. Tu es belle et rayonnante sur ton canapé.
Merci. Tu vois, je suis accordée au canapé comme une petite abeille. Audrey, merci d'être avec nous pour nous partager cette fois-ci ton appel à la mission. Comment Dieu t'a appelé? On le sait, tu es une missionnaire, tu es très très investie, tu ne t'arrêtes jamais, j'ai l'impression, même tu enchaînes pays après pays, que ce soit dans les pays pauvres, mais comme dans les pays plus riches, en tout cas matériellement parlant, pas spirituellement forcément, mais tu es vraiment là où Dieu t'appelle. Et aujourd'hui, tu vas nous partager comment tout a commencé, comment Dieu t'a appelé. Et avant qu'on commence l'émission, tu me racontais que quand tu étais toute petite, tu avais 6 ans, un jour on t'a demandé quel métier tu voudrais faire plus tard.
Ah, oui.
Et tu avais donné une réponse très inspirée.
Ben, j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans peut-être, dans ma cuisine. Et puis j'ai une voisine qui a demandé, ben, ma poulette, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et puis c'est sorti de ma bouche, je dis, moi je vais voyager partout dans le monde, mais je ne serai pas un touriste, je vais rester chez les gens. Et en fin de compte, ça paraît l'air, ma petite voisine, elle la regardait, la sourit. Mais c'est des années plus tard que je me suis aperçue que dans mon esprit, l'appel de Dieu était déjà la même. Dans Psaume 139, on découvre que David, il savait que dans le sein de notre mère, là, même quand on est une masse informe, là, l'appel de Dieu est déjà là en nous.
Amen.
Notre destin a déjà été fait, a déjà été décidé. C'est Dieu qui nous donne cet appel, même dans le sein de notre mère.
Exactement.
Donc, c'était là.
Exactement. Et toi, tu as quitté, tu as connu le Seigneur à l'âge de 23 ans. Et puis, le Seigneur t'a appelé aux États-Unis. Tu savais pas où, tu savais pas trop comment, mais très vite, en fait, tu as su que tu devais faire une école biblique, c'est ça?
Ben oui, en fin de compte, école biblique, je savais même pas ce que c'était. Et ça a été vraiment, je vois l'orchestration. Dieu, comme je dis toujours, il est meilleur qu'un GPS, parce que son orchestration est impeccable et magnifique. Et puis, j'ai rencontré une dame alors que je partais pour les États-Unis. Vraiment, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais pas. Où tu vas aller? Je ne savais pas. Je savais simplement que je devais partir aux États-Unis. J'avais quitté mon boulot, j'avais fait mes valises. Et alors que j'étais en route, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, non, vous devez aller à l'école biblique. J'ai dit, c'est quoi ça? Et bien, en fin de compte, j'ai atterri dans une école biblique. Elle a fait en sorte qu'elle m'a convaincue que c'est ce que je devais faire. Et c'était le Saint-Esprit aussi qui a fait un travail sur moi. Et puis elle a contacté une famille qu'elle connaissait à Tucson, Oklahoma, pour m'accueillir pendant un an. Et puis j'ai été dans une école biblique. Et je voudrais dire en fin de compte que ça s'est fait par hasard, comme dirait, ou par coïncidence, mais vraiment par, c'était l'orchestration de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a dû me faire, j'ai dû avoir comme un lavage de cerveau.
Ouais, c'est ça.
Parce que j'ai grandi dans un milieu ou dans un, où l'impossible, on n'en parlait jamais. S'il y avait quelque chose, je me rappelle avoir grandi en me disant, pourquoi on peut pas faire ça? Puis on me disait, ben, cherche pas à le faire. Si ça n'a pas été fait, ça peut jamais être fait. Tu vois, c'était l'impossible, c'était non. On posait pas de questions, il fallait pas essayer de faire ce qui a jamais été. Mais bref, on nous apprenait à être médiocre au lieu d'être excellent. Et puis moi, j'étais pas à l'aise. Je me rappelle, j'avais en tant petite enfance, mais donc le Seigneur m'a envoyé aux États-Unis où les gens rêvent, voient l'innovation, l'esprit du pionnier et puis dans une école biblique.
Oui.
Et c'est ça, je dis, c'est dans cette école biblique que j'ai enfin découvert mon appel.
Que l'impossible était possible.
Que l'impossible était possible, et je dirais même mieux, parce que je reçois souvent des emails de gens qui disent, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans le ministère, ou qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je sais ce que je dois faire dans la vie si je suis appelée au ministère, et puis comment commencer, puis tout un tas de questions comme ça de jeunes qui ne savent même pas comment. Et puis moi, je dis toujours, d'abord, je rends grâce et je remercie Seigneur pour enseigne-moi.com, parce que les gens peuvent se nourrir de la parole au travers, au biais de cette chaîne télé.
Amen.
Et de cette site internet, mais il n'y avait pas de enseigne-moi.com à l'époque.
Ben non.
Il n'y avait pas d'école biblique que je connaissais à l'époque en France. Pas qui enseignait la parole et l'esprit.
Ouais.
Et puis donc, dans cette école biblique, là où j'ai passé un an, eh ben, ça m'a fait un lavage de cerveau. C'est là où j'ai découvert qui j'étais en Christ, ce que je pouvais faire en Christ, que l'impossible, ça plaisait à Dieu, que lui, il était un Dieu d'impossible. Et c'est dans cette atmosphère de foi, comme je dirais, comme d'une serre spirituelle, dans une bulle spirituelle, c'est là où c'était si facile d'entendre Dieu.
Oui.
Et c'est là que j'ai découvert que Dieu m'a appelée. Parce que dans cette église, qui était une église très branchée dans la mission, ils faisaient des petits voyages de mission à court terme, et puis je suis allée dans un petit voyage à Haïti, et là, sous une hutte, dans un village, j'ai entendu la voix qui m'a dit, je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres.
Ok, c'était très clair. Là, tu as reçu ton appel.
Et comme je dis aux gens, si vous êtes appelés, vous savez que vous savez que vous savez que vous savez. C'est pas vos parents qui peuvent vous appeler. C'est pas votre pasteur qui peut vous appeler. C'est pas Personne ne peut vous appeler, c'est Dieu qui vous appelle. Et vous le savez, vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que je suis appelée. Non, vous le savez, comme si votre nom est Monique ou votre nom est Evelyne ou Audrey. Moi, je sais que je suis Audrey et je sais que je suis appelée à être missionnaire.
C'est une certitude pour toi. Et ensuite, tu rentres d'Haïti et puis tu embarques dans une troupe théâtrale.
Ben oui, j'ai d'abord fini mon diplôme. J'ai fini le diplôme, ma formation qui m'a vraiment ancrée, m'a donné une fondation dans la parole. Ça m'a donné un amour, ça m'a permis de développer cette... Parce que j'ai remarqué quelque chose, je parle dans certains pays en Europe où aller à l'église... Ce n'est pas quelque chose, ben on fait de temps en temps, c'est pas, on n'en voit pas la nécessité. Et en tant que Française, alors que je vivais, j'aimais Dieu, j'étais chrétienne, j'avais accepté le Seigneur. Les premiers 9 mois de ma vie, le dimanche à l'église, c'était pas quelque chose que je pensais que c'était nécessaire. C'est quand j'étais à l'école biblique, tout d'un coup, ben j'ai découvert que être à l'église, c'était tellement important qu'on tout d'un coup on se greffait dans le corps du Christ, c'était là qu'on pouvait servir, apprendre qui nous étions, que nous étions. Et puis je vais un pas à l'avant, aller dans un collège biblique aussi. Et c'est tellement, et dans un bon collège biblique, dans une bonne, parce que il y a des écoles bibliques qui vont vous remplir de plein de trucs intellectuels.
C'est ça, que de la connaissance.
De la théologie qui ne sert à rien, qui va vous handicaper plus qu'autre chose, vous remplir de notions religieuses, de doctrines, comme Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est la doctrine qui vraiment va vous handicaper plus qu'autre chose. Je remercie le Seigneur qui m'a guidée dans une école et demandez au Seigneur, guide, Seigneur, quelle est une bonne école pour moi?
Amen.
Il y en a maintenant, il y en a des bonnes.
Parler du Saint-Esprit, on sera rempli du Saint-Esprit.
C'est voilà, une école qui valorise la parole vraiment et que ce soit du pratique et la communion avec le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Et puis, de là, j'ai eu vraiment le prochain pas où Dieu m'a mis avec un groupe. C'était un groupe d'évangélisation et c'était un groupe d'artistes, de théâtre, de danse, mais c'était en fin de compte, c'était un spectacle Broadway, à la Broadway, mais d'une qualité professionnelle. On est allé avec cette équipe, on est allé Carnegie Hall. Le Carnegie Hall, c'est dans une ville, je crois que c'est dans Pittsburgh, où il y a les plus grands talents, que ce soit danse, musique et des philharmoniques qui ont le droit d'être dans ce hall là. Et puis nous on est allé dans les théâtres du Bolchoï en Russie. On a eu des portes ouvertes parce que la qualité de ce spectacle, mais c'était l'évangile au travers du mime, de la danse, des spectacles et tout un tas. Et puis moi j'ai eu l'opportunité, après avoir été fidèle pendant un an, à plier des t-shirts et à vendre des CD VHS, Dieu m'a donné un rôle en fin de compte, où j'étais sur l'estrade à faire de la danse et du théâtre et du mime.
C'est magnifique.
Et on a vécu des choses magnifiques.
Et t'es resté combien d'années avec eux?
Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et là, on a été dans toute l'Europe. On a fait un tour européen. On est allé en Finlande, en Suède, en Auvergne, en Norvège, en Russie. Après que c'était juste on est allé en Russie en fin de compte, dans des pays pendant que c'était
le communisme
régnait, on avait le KGB qui nous suivait, il y avait des trucs, mais on a vécu des choses du style James Bond, tu vois, vraiment.
Et puis au bout d'un moment, le Saint-Esprit te dit que c'est terminé avec eux.
Voilà, il m'a dit maintenant, c'est le temps. J'ai versé une petite larme parce que c'était des moments formidables pour moi où j'ai appris des choses, comment travailler en équipe, la vie de c'est vraiment comment une église est supposée fonctionner. C'était ça en fin de compte. Et on a lié des amitiés, des choses fantastiques. Et puis ben de là, j'ai fait une formation, parce que je savais que j'étais missionnaire. Donc j'ai dit que j'ai fait une formation en tant que missionnaire. J'ai appris plein de choses, comment être missionnaire, comment aller sur le champ de mission, parce que c'est pas évident.
Non, c'est sûr.
En tant que femme et être missionnaire, il y a des choses que l'on doit savoir. Moi, je dis aux gens, si vous êtes jeune et que vous savez que vous êtes appelée à être missionnaire, aller dans des voyages, des petits voyages de mission, mm-hmm. que ce soit une semaine, deux semaines, un mois.
Pour se former.
Pour vivre des choses, pour voir vraiment est-ce que la mission est pour moi. Ouais. Et puis vraiment pour, et puis en tant que jeune ou que ce soit moins jeune, je dis, ben, commencez déjà par un voyage à court terme.
Oui.
Quelque chose où vous mettez les pieds dans l'eau. Et c'est déjà un bon commencement et ça va vous permettre de voir qu'est-ce que c'est que la mission.
Ouais.
Et puis je crois qu'il y a beaucoup plus de je veux encourager les églises à faire ça, à faire des voyages mission à court terme, à avoir des gens de vos églises parce que ça les sensibilise, ça leur permet de voir ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde parce que des fois on a tendance à être replié sur notre nombril ici ça nous ouvre les yeux sur le monde. Mmh. Et puis en fin de compte quand j'ai commencé dans la mission, j'ai commencé en Albanie, puis on voit aussi des photos là. Oui. Et puis en Albanie, je suis restée 9 mois, puis j'ai fait plein de choses. Parce qu'au début du ministère, en fin de compte, Dieu nous permet de faire plein de choses.
On touche à tout.
Vas-y.
Je dis, on touche à tout.
On touche à tout, oui. Ben, j'avais un ministère dans les orphelinats. Parce que j'avais eu de l'expérience dans le théâtre. Donc, j'ai enseigné les gens comment faire du théâtre. On était dans les rues. Wow. On voit là une image où j'avais écrit des pièces de théâtre dans la rue. Et puis les gens dans la rue, ben à chaque fois comme à Paris, hein, s'il y a quelques personnes qui se réunissent, qui font un petit peu de la danse, du break dance ou du théâtre ou quoi que ce soit, ben les gens se réunissent. Ouais. Et puis de là, on a vu plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur.
C'est merveilleux.
Et puis on a fait même dans un théâtre, on voit la photo d'en haut là où j'avais enseigné. En fin de compte, c'était à Noël. Qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Et puis j'avais enseigné, c'était formidable, plein de gens qui étaient venus au Seigneur. On voit la dame là qui avec son petit fuseau, on est allé dans les montagnes où personne n'avait jamais mis le pied. On est allé dans des villages à sac à dos pour prêcher l'Évangile. Et puis on a vécu des choses formidables.
C'est merveilleux.
Et puis de là, ben, il y a eu la prochaine étape où je suis allée en Inde. Mmh. On voit là une photo où je suis en Inde devant le Taj Mahal.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on a un appel, des fois Dieu nous donne des déjà-vus. Mmh. Et je sais pas si ça t'est arrivé, j'en suis persuadée, que des fois il y a des choses que tu vois. Je me rappelle m'être vue toute petite devant le Taj Mahal.
Oh.
Une autre fois, je m'étais vue quand j'étais là en Russie sur la place rouge.
Oui.
J'ai eu comme un déjà vu.
Oui.
Je dis, je me suis déjà vu là, mais pourtant, j'ai jamais mis le pied.
Mm-hmm.
Et c'est ça, en fin de compte, si vous avez ce genre de déjà vu, vous dites, oh, je suis jamais venu ici, mais j'ai l'impression que j'ai déjà été là. C'est en fin de compte, c'est une confirmation de Dieu qui te dit, tu es au bon endroit en train de faire la bonne chose. C'est Dieu qui te dit, tu es en plein centre de ma volonté.
Amen.
C'est déjà vu quand des fois qu'on est en train de vivre, ben, c'est Dieu qui dit, ouais, tu es en train de faire ma volonté.
Mmh, amen. Et y a eu l'Inde. L'Inde, on en a beaucoup parlé, mais l'Inde, c'est quand même un gros morceau parce que Dieu t'avait vraiment donné un cœur pour l'Inde. Et là, en Inde, ça a été particulier. Ça a été ta première mission en solo, en guillemets, le sens où le Saint-Esprit t'a dit, tu vas être complètement dépendant de moi, de A à Z, financièrement, mais même dans tes déplacements, dans ce que tu allais faire. Tu étais complètement dépendante du Saint-Esprit.
Et je crois, en fin de compte... Il y a pas longtemps, j'ai enseigné tout un cours sur le ministère itinérant.
Oui.
Et je disais, Seigneur, je referai des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a à dire. Il y avait rien du tout. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, dans Marc 6, tu as tout ce dont tu as besoin.
Oh.
Et j'ai découvert que dans Marc 6, c'est Jésus qui enseigne ses disciples qu'est-ce qu'il doit faire. Il les envoie en mission. Oui. Et une des premières choses qu'il leur dit, il dit, ne prenez pas de sac, prenez pas de manteau, prenez même pas une deuxième paire de souliers. Mmh. Et prenez pas d'argent. Et puis les envoyer vraiment à l'aveugle, entre guillemets, une foi complètement aveugle, et c'est ce que le Saint-Esprit a fait avec moi. Quand j'étais en Inde, toute seule, je connaissais personne, il m'a dit, ne reçois aucun fonds des États-Unis, rien du tout, fais-moi confiance. Et puis de là, vraiment, c'est là où j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit, où j'ai vraiment, il me disait des fois, je rencontrais quelqu'un qui me disait, ben moi je connais quelqu'un dans telle ville, puis il m'écrivait le nom de la personne sur un bout de papier. Alors j'avais le nom de la personne, et puis après le Saint-Esprit me dit, bon, va dans le train, sors du train, et puis voilà, va trouver cette personne. D'accord, je prends le train, 3 heures de train, je sors du train, et puis maintenant quoi?
Ben oui.
Puis il me dit, va près de cette voiture. Je vais prendre une voiture blanche, puis il y avait derrière, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Alors je dis, ah ben ouais, bon, je me tiens derrière la voiture, puis j'attends. Puis il y a deux bonhommes qui arrivent et qui me disent, j'ai dit, monsieur, excusez-moi de vous parler, est-ce que vous connaissez cette dame? Ils me disent, ah oui, on la connaît très bien, on vous amène chez elle. Puis je rentre dans la voiture, ils me déposent chez cette dame. Et puis, je reste chez elle, elle m'accueille. Et puis, on m'avait donné le nom d'un autre pasteur en me disant, eh ben, ce pasteur-là, on l'a connu il y a 20 ans. On ne sait pas s'il est toujours vivant, mais voilà, je te donne le nom. C'était pasteur Nazim. Et puis, dans une ville qui a 1 million d'habitants, tu vois, essayer de trouver quelqu'un sans annuaire téléphonique.
C'est fou.
Pas d'Internet à l'époque, ben c'était 1994. Mm-hmm. Et puis donc, je lui dis, ben, tu connais le nom de cette personne? Elle me dit, non, pas du tout. Je lui dis, ben, le Saint-Esprit me dit, ben, commencez à conduire dans la ville, moi je vous guide. D'accord, on va dans la voiture, on conduit. Et puis tout d'un coup, il y a un portail qui dit dessus Maranatha. Et puis le Saint-Esprit me dit arrête-toi là. Je dis d'accord, je m'arrête, on sort de la voiture, puis je vais voir le portier. Puis je dis excusez-moi de vous déranger, vous connaissez ce monsieur-là, pasteur Nazim? Il me dit ah oui, c'est le directeur de notre école. je dis vous pouvez aller le chercher, puis il est allé, puis du coup on est devenu ennemis, puis ce monsieur il m'a reçu chez eux, je suis restée chez eux, puis j'ai enseigné dans leur école pendant 2 mois et demi, et puis ce jour-là des fois j'écris toujours à sa femme, et puis des aventures comme ça, c'était d'une aventure à une autre, et en fin de compte ça m'a même ouvert des portes de là à faire des campagnes évangéliques avec des ministères comme je dis pas les noms parce que ce sont des noms très connus, mais de là ça a été vraiment le Saint-Esprit qui m'a guidée, mais j'ai dû apprendre cette leçon, que c'était Dieu qui était ma source, c'était à lui que je devais me confier, pas à l'homme, c'était lui qui ouvrait les portes, et on doit tous dans la mission et dans le ministère, je pense, passer par là, et c'est important.
Et dernièrement, il y a environ 10 ans, le Seigneur t'a rappelé vers la francophonie, donc un autre type de mission, et là c'est ce que tu fais actuellement. On a quelques minutes pour parler de comment ça s'est passé, cet appel pour la francophonie?
En fin de compte, en 1987, j'avais reçu une parole de prophétie de mon pasteur qui m'a dit Dieu te rappelle vers ton peuple. J'avais pas bien compris, donc j'avais mis la parole sur l'étagère, et c'est 20 ans presque à la semaine près, je suis à Genève derrière un pupitre où j'enseigne pour la première fois en français. Et j'entends le Seigneur qui me parle derrière, qui me dit, c'est ça dont je t'ai parlé il y a 20 ans. Je te rappelle vers le peuple francophone. Alléluia. Et c'est intéressant parce que maintenant, bah, ça fait 11 ans que le mot mandat, c'est la francophonie. J'ai à cœur la francophonie. Et même le premier voyage que j'avais fait en Haïti, où j'avais reçu mon appel en tant que missionnaire, j'étais partie de là parce que mon cœur, j'avais tellement aimé, j'avais reçu mon appel et j'ai dit, je reviens à Haïti. Et puis des années se sont écoulées, puis je suis pas revenue à Haïti, puis je me suis sentie mal en disant, mais j'avais dit aux gens que je revenais à Haïti. Et c'est 25 ans plus tard qu'un pasteur qui est un ami à moi, et a commencé une école biblique à Haïti. Et puis maintenant, depuis 2012, j'y retourne presque 3 fois par an. Et puis on voit une photo, là, voilà, j'ai fait une conférence de femmes où on enseigne il y avait presque 1000 personnes là. 1000 femmes qui avaient faim pour le Seigneur. Une école biblique avec des centaines d'élèves, des pasteurs qui viennent de partout de l'église. Et puis la francophonie, c'est le moment pour la francophonie.
Amen. Et on voit que Dieu aime la francophonie parce que quand même, il est venu te chercher alors que tu étais dans des peuples où on peut se dire, mais il y a un vrai besoin dans ces peuples. On parle de l'Inde, on parle
le Vietnam, la Birmanie.
Il y en a eu tellement. Il y en a eu 50, tu me disais plus de 50 pays.
En comptant tous les pays, je me suis arrêtée un petit peu de compter, mais je crois que ça a dépassé la cinquantaine.
C'est énorme. Mais Dieu t'appelle là pour la francophonie. Et vous qui êtes francophone, qui nous écoutez, Audrey, Dieu l'a déplacée pour nous, pour la francophonie. C'est parce que Dieu aime la francophonie, vraiment. Et j'aimerais vraiment vous dire que la mission, c'est aussi en francophonie, dans des pays qui ont l'air très riches matériellement, mais spirituellement, qui sont désespérément pauvres et qui sont affamés et assoiffés de la parole de Dieu. Donc Audrey, là, t'es en plein dans, tu me disais, t'as l'impression que c'est comme si ta mission, pourquoi Dieu vraiment t'a appelé, c'est vraiment maintenant que t'es en train de le faire dans la francophonie. Et on te remercie pour ce que tu fais pour la francophonie. Merci d'être disponible. Et merci de nous avoir partagé un bout de ton histoire, de cet appel extraordinaire que Dieu a mis sur ta vie.
Je remercie vraiment Audrey Mac parce que C'est une femme, déjà, qu'on aime beaucoup à MCI TV. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est une femme qui n'a pas peur. Elle n'a vraiment pas peur. Et je me souviens, quand on a enregistré son témoignage, ça m'a vraiment énormément édifiée de voir que, aussi jeune qu'elle était, elle connaissait finalement pas grand-chose à la mission, à ce qu'elle allait devoir faire. Elle a tellement fait confiance à Dieu. Et vraiment, comme tu l'as dit, elle le raconte dans son témoignage, hein, comment Dieu l'a guidée jusque, mais même vraiment, voilà, tourne dans cette rue à droite, va tout droit, va à gauche, etc. Et c'est, moi, ça m'édifie vraiment de me dire que si on n'a pas peur, en fait, on est un peu fou aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, en fait, on est juste des enfants qui ont confiance en leur père et voilà, on lui prend la main puis on dit « Allez, Seigneur, là où tu veux que j'aille, j'y vais, je te suis. Je te suis simplement et je te fais confiance. » Et j'espère vraiment à la maison que vous avez été encouragés et que certains d'entre vous ont peut-être même pris des décisions en écoutant cette émission. Donc, la moisson est mûre, elle est plus que mûre et le Seigneur a besoin d'ouvriers et peut-être que vous êtes l'un de ces ouvriers. Donc, je veux vous encourager à vous placer devant Dieu, à vous demander est-ce que j'ai désobéi, est-ce que j'ai perdu trop de temps, est-ce qu'il faut simplement peut-être que je commence à me former, j'ai peut-être négligé ma formation aussi. Vous savez très bien ce que vous avez à faire, c'est pas à nous de vous le dire, mais je vous en supplie, commencez à entrer dans cet appel que Dieu vous a destiné. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end. Merci à vous pour cette émission. On se retrouve demain. Je vous souhaite une très belle réunion bénie dans la présence de Dieu ce dimanche dans votre église locale. À lundi, pardon, et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.